Donc le détail, c'est juste simplement ce que nous allons partager ensemble. Alors, nous sommes toujours dans l'évangile de Marc, et au chapitre 14. Alors, je vous propose de lire à partir du verset, donc le chapitre 14, à partir du verset 27. Nous lirons jusqu'au verset 31. Marc 27, jusqu'au verset 31. Pardon ?
Il y a de l'écho.
Ah, il y a de l'écho.
L'écho dans
le micro. C'est mieux ? Alors, on va prendre la lecture. À partir du verset 27 jusqu'au verset 31, je vous le lis. Jésus leur dit : Vous serez tous scandalisés, car il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit : Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit : Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. C'est bien sûr à la suite de l'explication que Josias nous avait donnée la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça avait terminé, c'était sur le repas du Seigneur. Et donc là, au verset même 26, il nous dit comme ça, après avoir chanté, c'est-à-dire après avoir passé le repas avec Jésus, après avoir chanté, verset 26, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et à partir de là, Jésus va leur parler et il va révéler ce qui va se passer. Et il leur dit, vous serez scandalisés. Alors, c'est vrai que ce verbe scandaliser, on peut l'interpréter différemment, mais on peut quand même le traduire comme ça sera pour vous une occasion de chute. Vous serez scandalisés, c'est une occasion de chute. Alors, une occasion de chute qui sera bien sûr ponctuelle, car c'est la peur charnelle qui va leur faire chuter. Et ensuite, Jésus, bien sûr, il cite Zacharie au chapitre 13, verset 7, hein, où il dit comme ça, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées », verset 27. Hein. Oui, c'est vrai, Jésus, il est le berger, il est le pasteur. Ici, on peut voir, et on voit aussi que les brebis vont être dispersées. On peut lire dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2 au verset, alors je ne sais pas si j'avais mis la référence, chapitre 2 au verset 23, voilà ce qu'il dit, il est dit comme ça, « Cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu », ce qui veut dire que, bien entendu, ici nous voyons bien que c'est Dieu qui ordonne la mise à mort de Jésus-Christ. C'est bien ce qu'ils disent par la préscience de Dieu, c'est-à-dire parce que Dieu connaissait d'avance ce qui allait arriver. Donc, voilà, les brebis vont être dispersées, et en fin de compte, c'est ce que Jésus leur dit, vous serez scandalisés, ça sera une occasion de chute pour vous, parce que vous allez fuir, vous allez vous éloigner.
Tu peux rappeler la référence, là ?
De Actes, chapitre 2, verset 23. Ensuite, Jésus donne quand même cette espérance. Hein. Je vous précéderai en Galilée, parce que c'est en Galilée, après la résurrection, que ça a été important, parce que c'est là que Jésus s'est présenté à plus de 500 personnes. Mais bien sûr, on sait très bien que Jésus s'était présenté aussi bien avant, hein, les 500 personnes qui s'étaient déjà présentées devant les disciples. Donc, oui, ici, nous avons là une promesse d'espérance. C'est lui qui nous précède. Jésus, il marche devant nous. Et Luc, au chapitre 22, verset 27, nous dit que Jésus, il est au milieu de nous. comme celui qui sert, comme celui qui conduit, comme celui qui protège, comme celui qui fortifie. Donc Jésus est devant nous, il nous précède. Et c'est quand même bon de le savoir. C'est une espérance pour nous de savoir que Jésus marche devant nous. Nous ne sommes pas abandonnés. J'aime bien ce passage qui nous le rappelle. Et ensuite, je pris la même référence dans Jean 15 que, d'ailleurs, Josias avait pris la même référence, puisque c'était normalement Josias qui devait terminer ce chapitre, mais devait aller plus loin, mais c'était tellement riche qu'il n'a pas pu finir. Donc moi, je vais simplement survoler ce passage-là. Alors, Jean 15, verset 5, il est dit comme ça que Jésus est le cep. Il dit, je suis le cep et vous êtes le serment. Donc, oui, Jésus, il est le bon berger, il est le pasteur et nous sommes, nous, les brebis. Et sans lui, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Notre espérance est de demeurer, bien sûr, auprès de lui. C'est un encouragement pour nous, aujourd'hui, de demeurer, de savoir que Christ est devant nous et nous n'avons qu'à le suivre. Alors après, à partir du verset 29, bon, il y a le reniement de Pierre. On avait fait un message dernièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez. Là, dans ce passage, on va le retrouver beaucoup plus tard. On va le revoir même tout à l'heure. Donc, je vais passer sur ce passage. La seule chose que je vous demande, c'est de le retenir. Hein, de retenir le reniement que Pierre il dit là à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. On va y revenir, donc je saute. On va continuer à partir du verset 32 jusqu'au verset 42 que je vous propose de lire. Alors, est-ce que quelqu'un veut le lire à haute voix qu'on puisse entendre à partir du verset 32 jusqu'au verset 42.
Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. »
Ok, merci. Alors, c'est vrai que moi, enfin, je l'ai déjà répété, mais j'aime bien me mettre dans le contexte. Quand je lis un passage, donc on a écouté ce que Josias a lu, et c'est bon de s'imaginer qu'on y est à ce moment-là. Alors, on va quand même voir ça. Hein. Alors, j'ai une première question. Savez-vous ce que ça signifie, Gethsémané?
Le lieu où on foule aux pieds les... Hein? Le lieu où on presse les raisins, non, aux pieds?
Ouais. Mais c'est marqué sur vos feuilles.
Ah oui, je ne l'avais pas vu.
C'était pour savoir si vous souviez.
Ça veut dire
pressoir.
À l'huile.
Les feuilles sont là simplement pour vous aiguiller un peu. Pression à l'huile. C'est ce que ça veut dire, Gethsémané. Hein? Gethsémané est situé en face de Jérusalem et c'est là que Jésus aimait se rencontrer avec ses disciples. C'est un lieu aussi où il y avait une forme de pression. Un peu comme Jésus, ce qu'il a ressenti justement avant son arrestation. Alors dans ce texte, 32 à 42, alors là aussi, j'ai pris simplement un ou deux versets Parce que c'est toujours pareil. On va, la suite va nous donner des réponses. Il y a un verset que j'ai voulu retenir, c'est au verset 34. Il est dit, c'est Jésus qui dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. »
Ouais.
Ici, son angoisse n'avait rien à voir avec la peur des hommes. C'est ben pas, Dieu n'avait, Jésus n'avait pas son âme triste parce qu'on allait venir l'arrêter. C'est pas à cause de ça que son âme était triste jusqu'à la mort. Ce n'était pas non plus parce qu'il allait rencontrer des souffrances physiques. Non. C'est pas pour ça non plus. Mais pourquoi il avait son âme qui était triste jusqu'à la mort? C'est parce qu'il devait boire la coupe.
Ouais.
La coupe du péché.
C'est le péché.
Et aussi, il savait qu'il y allait avoir cette séparation qu'il y avait entre le Père et Dieu. Et ça, pour le Seigneur Jésus, c'est ça qui était vraiment quelque chose que son âme était triste jusqu'à la mort. Ça devait être quelque chose d'horrible, de savoir qu'il devait passer par là. Et alors, il prie que cette coupe s'éloigne de moi. Mais Jésus savait très bien, d'abord il avait accepté la volonté de son Père, hein. Il savait qu'il devait passer par la croix. Jésus savait très bien aussi que le Père pouvait fournir un autre plan de salut. Dieu aurait pu, pour sauver l'humanité, le faire différemment. Mais il a voulu que ça passe par Jésus. D'ailleurs, dans Actes au chapitre 4, verset 12, il est bien dit, « Il n'y a de salut en aucun autre que celui de Jésus. » Et Jésus devait être l'agneau qu'on allait sacrifier. Et pour le Seigneur Jésus, il le savait. Il le dit bien qu'il prie, mais il sait très bien mais que ce ne soit pas sa volonté, mais la volonté du Père. C'est pour ça que son âme était triste jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il est bien dit qu'à un moment donné, Jésus a sué des grumeaux de sang tellement qu'il angoissait. Alors j'avais demandé à un docteur si cela était possible. Et on m'a dit que oui. Il m'a dit que c'est une tellement forte... Alors, je ne sais plus les mots qu'il m'avait dit, mais il m'a dit ça peut se faire. Et que l'angoisse tellement forte que la sueur, eh bien, il peut y avoir des espèces de grumeaux de sang. Alors pas du sang qui coule comme quand on s'ouvre, hein, mais voilà. La parole de Dieu a dit la vérité. Donc oui, son âme était triste jusqu'à la mort à cause de ça, à cause de cette coupe, à cause de ton péché et de mon péché. Ensuite, bon, j'aime vraiment le verset aussi qui suit, hein. Là aussi on va le voir, hein. Jésus va vers les disciples qu'il trouve, bien sûr, endormis. Ils n'ont pas pu veiller une heure. Et ici, c'est vrai qu'on pourrait, rien que sur ce passage-là, on pourrait faire toute une étude. Ben, on ne va pas le faire, parce qu'il y a tellement, je vous dis, tellement de choses qu'on doit voir. Mais ils n'ont pas pu veiller. Veiller et prier, ce mot veiller peut se traduire comme rester sur vos gardes. Soyez sur la brèche, soyez attentifs, faites attention, veillez. Attention au sommeil, attention à l'endormissement spirituel. Parce qu'on a lu que la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Et moi j'ai pu expérimenter cette semaine, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Il m'a pris une colère, je me dis, il y a des choses des fois qu'on ne veut pas, mais combien j'ai besoin de demander pardon au Seigneur. La chair est faible, nous devons veiller. Ensuite... Alors, quelle leçon à retenir ici? Eh bien, Pierre se croyait peut-être plus fort que les autres, hein, lui qui avait dit « j'irai jusqu'à la mort ». Si eux, ils sont scandalisés, si eux, ils chutent, moi, je ne chuterai pas.
Oui.
C'est ce qu'il dit. Attention à ne pas se croire fort. Restons humbles dans notre marche avec le Seigneur. Ouais. Moi, je ne serai pas scandalisé. Moi, je ne chuterai pas. Qui c'est qui peut dire ça? Est-ce qu'il y a un de nous qui peut dire « Ah, moi, non. Moi, j'aime le Seigneur. » Personne. Non. Veillons. Ouais. Veillons. Veillons et prions. Alors, je passe vite encore sur ce passage et sur ce que nous venons de lire. Nous allons continuer dans le verset 43 à 52. Je vous demande là aussi si quelqu'un veut le lire. Le verset 43 à 52.
Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Dès qu'ils furent arrivés, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi !» et il le baisa. Alors ses gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ouais.
Merci. Donc là, nous sommes dans l'arrestation de Jésus. Alors c'est vrai que nous avons dans les quatre évangiles, nous avons le même récit, avec plus ou moins de détails que Marc ne mentionne pas. Par exemple, dans Jean au chapitre 18, verset 2 à 12, Jean mentionne que c'est Pierre qui coupa l'oreille du soldat. Alors que Marc, ici, il dit comme ça, un de ceux qui étaient là tira l'épée. Il nomme pas Pierre. Mais c'est pour ça qu'il est bon des fois de lire les quatre évangiles, comme ça on a une autre vision du récit et on le comprend mieux. Donc, nous allons maintenant essayer de revivre un peu ce moment, l'arrestation de Jésus, et ensuite on verra, oui, l'abandon que les disciples l'ont abandonné. Alors, il est dit, aussitôt que Jésus parlait encore, il était en train de parler à certains de ses disciples, et il dit... Jésus, donc, il est dans le jardin de Gethsémané. Il prend avec lui Pierre, il prend Jacques et Jean. Il leur demande de rester là et de veiller. Et au verset 41, il leur dit que l'heure est venue, Jésus doit être livré. Et comme il est en train de parler, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que Judas, un des disciples, qui arrive avec une foule. Une foule, pas avec deux ou trois personnes, avec une foule, avec des personnes qui sont bien armées d'épées et de bâtons, envoyées par les chefs religieux, les scribes, les anciens. Judas le traître, vous savez, il avait donné un signe, il a dit, celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Judas s'approche de Jésus et il lui dit, Rabbi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse. Waouh! Quand on lit ça, c'est quand même un acte ignoble de la part d'un des disciples. C'est une trahison, c'est une hypocrisie. Vous savez, le baiser était un geste d'affection, était un geste de respect quand on fait la bise à quelqu'un, on apprécie. Mais là, non, c'est un geste de trahison que Judas fait. Vous savez, je crois que je l'avais déjà dit, il vaut mieux parfois une bonne poignée de main que des fois un baiser hypocrite. Puisque Jésus n'offrit aucune résistance, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Les soldats, eh bien, ils prennent Jésus facilement, parce que Jésus ne se rebelle pas, ne se défend pas. Marc ne mentionne qu'une tentative, on l'a lu, de l'un d'eux tira son épée. Mais Jésus, lui, il ne se rebiffe pas. Il n'y a que Jean qui dit que c'est Pierre. Et dans les autres évangiles, il nous est même rappelé, je crois que même Marc ne le mentionne pas, Matthieu et Luc est le seul aussi qui mentionne que, Jésus a remis l'oreille. Marc ne le mentionne pas. Jésus, on le voit plein d'amour encore là, et pourtant on vient l'arrêter. Il est vrai que Pierre voulut défendre Jésus. C'est une bonne chose. Peut-être que nous, on aurait fait pareil. On aurait voulu défendre Jésus. Eh bien, vous savez, ce n'est pas par la violence qu'on doit défendre Jésus. Matthieu, verset 26, chapitre 26, verset 52, je vous le lis. Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Voilà ce que Jésus dit à Pierre. Bien que Jésus n'offrit aucune résistance, Jésus quand même, il leur dit qu'il s'adresse aux autorités religieuses parce qu'ils viennent à lui avec une armée. Une armée. Comme s'il était vraiment un voleur, comme si Jésus était un brigand. Quelqu'un que, waouh, qu'il fallait faire attention. Il n'était pas un révolutionnaire, Jésus. Ce n'était pas un voleur. C'était pas un truand. Il s'était montré ouvertement parmi eux tous les jours. Hein, il enseignait dans le temple. Et ils viennent l'arrêter avec des armes, des épées, des bâtons, et ils viennent l'arrêter la nuit, comme un malpropre. Ouais. Mais le verset 49, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ben oui. Que cela devait arriver afin que les Écritures s'accomplissent. Tout est arrivé parce que l'Écriture l'avait dit. Regardez dans Ésaïe 53. Qui c'est qui veut prendre Ésaïe 53, verset 3 ?
Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.
Ouais. Verset, toujours dans le même chapitre, verset 12.
C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs.
Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Comme un malfaiteur, on est venu l'arrêter. Et Ésaïe, c'est, je crois que c'est 7 siècles avant que Jésus qu'on l'arrête. Il a été mis au rang des malfaiteurs. On l'a traité comme un malfaiteur. Il fallait que l'Écriture s'accomplisse. La parole de Dieu, elle est vraie. Les souverains sacrificateurs n'avaient pas compris que le royaume de Jésus n'était pas terrestre. Et nous, on ferait bien aussi de nous en souvenir, surtout dans nos efforts pour apporter le vrai évangile. L'évangile ne se défend pas par la violence. L'évangile ne se défend pas par le mensonge, ni par la force, surtout la force humaine. Non, l'évangile, ça ne se défend pas comme ça. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Qu'est-ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, je vous le lis. Il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ouais, n'essayons pas, nous, avec nos propres forces, de vouloir convaincre, de vouloir défendre l'évangile. La parole de Dieu, elle se suffit à elle-même. Nous, nous n'avons que par l'Esprit de Dieu, par la parole, témoigner de ce qui est Jésus, ce qu'il est. Et nous n'avons pas à rajouter quoi que ce soit pour essayer de convaincre. Parce que parfois, peut-être, pris dans l'enthousiasme, on voudrait convaincre et apporter nous-mêmes des arguments. Non. La parole de Dieu, elle se suffit. à elle-même. Et on le dit souvent. La vérité n'a pas besoin de la force humaine. Les fausses religions, comme l'islam, se sont souvent répandues, on le sait, par l'épée. Le faux christianisme, comme celui de l'Église romaine, a souvent été imposé aux hommes par des persécutions, et parfois bien sanglantes. Mais le véritable évangile, l'évangile de Jésus-Christ, ne se reçoit pas par de tels moyens. Il se repose sur la puissance du Saint-Esprit. Alors, ce que j'ai envie de dire, ouais, quand nous parlons à quelqu'un, n'essayons pas de vouloir rajouter ou de faire montrer des choses qui vont nous dépasser nous-mêmes, mais annonçons simplement l'Évangile. C'est le Seigneur qui fera le reste. Ce qui est frappant dans ce récit, c'est encore, comme on l'a dit tout à l'heure, l'amour de Jésus. La délicatesse que Jésus a face à ceux qui viennent de l'arrêter. Moi, je comprends un peu Pierre. Parce que je me connais un peu. Je suis un peu aussi d'être impulsif. Parfois, on est peut-être aussi impulsif, ou des fois, on peut se mettre en colère face à un frère parce que, bon, il n'a pas la même façon que nous de penser. Mais Jésus, lui, il a la délicatesse. Jésus répond par la douceur. Il prononce même le nom de Judas. Dans Luc, au chapitre 22, au verset 48, il dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Moi, je me serais mis en colère. Ah, moi, je vous ai dit tout à l'heure que, ouais, je demande pardon au Seigneur parce que, des fois, la colère me prend. Mais Jésus, non. Quel amour. Et qu'est-ce qu'il dit à Pierre ? Pierre, remets ton épée au fourreau, dans ton fourreau. Oh, c'est vrai que je m'identifie à Pierre. Combien de fois j'ai la démangeaison presque d'envie de frapper, de m'énerver physiquement, verbalement, mais en agissant ainsi. Est-ce que nous sommes disciples de Dieu ? En agissant comme ça, sous la colère, sous la violence ? Est-ce que c'est comme ça que Dieu veut que nous répondons? C'est incroyable. Il se fait arrêter, on vient le traiter comme un brigand, avec des bâtons, il recolle l'oreille, il parle avec douceur, il dit à Pierre, non, range ton arme. Ah, c'est quand on y pense. Hein? Quel exemple là Jésus nous donne de douceur, d'amour. Jésus a stoppé Pierre, Jésus a manifesté jusqu'au bout la miséricorde. Jésus a remis en place l'oreille de Malchus, parce que je crois, si je prononce bien, c'est comme ça qu'on dit Malchus. C'est le nom du soldat de l'oreille coupée. Hein? Il lui a recollé. Moi, j'aurais coupé l'autre. Désolé. Ah oui, pardon. Bon, c'est une image. C'est une image, merci. Donc, frères et sœurs, il ne se fait aucun mal par Jésus ou à cause de lui. Jésus accepte ce qui doit venir. Il accepte ce qui va se passer. Ce que l'Esprit a annoncé par les prophètes, eh bien, ça s'accomplira. C'est l'heure des ténèbres qui précède le jour. C'est extraordinaire ce passage. On peut passer vite, mais il y a toute la douceur du Seigneur. Et on sait par où il va passer. Hein? On peut remarquer une chose dans ce récit, comment tout s'est déroulé, hein, surtout dans la passion de notre Seigneur, conformément à la parole de Dieu. Hein? Dans le verset 49, on l'a dit, il faut que l'Écriture s'accomplisse. Rien n'est au hasard. Tout a été tracé des siècles auparavant. Le psaume 22, verset 2, il est dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ésaïe 53, ça s'est accompli littéralement. Il a été ramené, il n'a pas ouvert la bouche, pas pour se rebeller. la parole de Dieu s'accomplit. La colère de ses ennemis, le rejet par son peuple, traité comme un coupable, tout cela avait été prédit et annoncé auparavant. Tout ce qui s'est produit n'était que l'accomplissement de ce que Dieu avait décidé. Et tout ça pour expier notre péché. Oh, il faut vraiment, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et Jésus-Christ l'a donné. Oh. Les hommes armés que Judas avait amenés avec lui étaient simplement des instruments inconscients de la volonté de Dieu. Tout était écrit d'avance. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons une situation, c'est vrai, on vit des situations des fois difficiles, parfois joyeuses. Ne nous étonnons pas, de toute façon, tout est écrit. Ayons cette pensée, tout est ordonné et gouverné par la sagesse infinie de Dieu. Je passe par une épreuve, Dieu le sait. Tu passes par la joie. Loue le Seigneur. Le Seigneur le sait. Ouais, tout est ordonné. Tout est conduit par notre Seigneur. Il est vrai que parfois, ce qui se passe dans nos vies peut être contraire parfois à ce que nous voulons. Peut-être c'est contraire à nos souhaits, les turbulences que nous vivons. La position de l'Église peut souvent être différente de ce que nous désirons. La méchanceté des hommes et les incompréhensions des croyants peuvent parfois nous affliger. Mais la main de Dieu veille sur nous, je me suis souligné. La main de Dieu veille sur nous et Dieu amène tout ce qui contribue à sa gloire. Oui, tu passes par des tribulations. Mais la main de Dieu veille. Dieu veille sur toi. Il veille sur moi. Seigneur, merci. Merci de ta patience. Les Écritures s'accomplissent chaque année, chaque mois, chaque jour. Pas un iota, pas un trait de lettre ne restera jamais sans s'accomplir. C'est la parole de Dieu qui le dit. Oui, il faut que l'Écriture s'accomplisse, comme l'a dit Jésus au verset 49. Tout cela était écrit. Vous savez, les rois de la terre, Trump, Poutine, la Chine, je ne sais plus comment il s'appelle lui, mais peu importe. Vous savez, ils peuvent se concerter. Hein. Tous ces chefs des nations peuvent s'opposer à Jésus-Christ. Prenons le verset, psaume 2, verset 2. Psaume 2. Psaume 2, verset 2. Jusqu'au verset 4, d'ailleurs. Oh, même premier verset.
Pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se luttent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son moyen? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque de lui.
Ah! Oui, toutes ces personnes-là, tous les chefs religieux peuvent s'opposer, mais Dieu se rit parce qu'il sait. Il sait tout. Le matin de la résurrection prouvera que même dans les heures les plus sombres, tout se fera selon la volonté de Dieu. Tout. Et rien ne se fera sans qu'il décide. Vous savez, dans ce récit, il y a une chose qui est frappante. Juste avant l'arrestation de Jésus, au verset 33, et c'est là qu'on revient à ce qu'on a dit. Il est dit au verset 33, il prit Pierre, Jacques et Jean, il leur dit de rester là et de veiller. Alors que Jésus, lui, allait un peu plus loin, il allait prier seul. Et n'oublions pas aussi qu'il va à la croix seul aussi. Hein? abandonné même, on va le voir. Ouais. Et alors que, quand il a fini de prier, il revient, et qu'est-ce qu'il y a? Il nous a dit que les disciples se sont endormis. Waouh. Vous savez, au moment de l'épreuve, ils n'ont pas pu veiller. Et ils n'ont pas pu prier. Ce qui me pousse à dire qu'au moment de l'épreuve, quand nous passons par l'épreuve, ne nous endormons pas. Car Pierre s'est endormi et il lui est resté que ses armes à lui. Et ses armes à lui, c'était
son épée.
Nos armes sont dérisoires dont l'ennemi se moque bien. Par contre, il y a une chose qui ne se moque pas. C'est le fait de prier. On peut avoir nos propres armes pour nous défendre comme ça. Ben, lui, le diable rit aussi. Mais par contre, quand nous sommes en prière, quand nous veillons, c'est là qu'on prend les armes de Dieu. Et c'est là qu'on peut être vainqueur. Oui, le diable craint nos prières. Ce qui est grave, c'est ce que nous dit le Luc au chapitre 22, verset 49. Les disciples demandent à Jésus, frapperons-nous de l'épée? Dans ce passage de Luc. Eh bien, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. Ils n'ont pas attendu la réponse de Jésus. Ils ont dit, mais frapperons-nous de l'épée? Et ils sortent de l'épée. Des fois, on est un peu trop rapide, des fois, dans nos décisions. Quand nous voulons prendre une décision, sachons aussi attendre la réponse du Seigneur. Sachons aussi rechercher la volonté de Dieu avant de vouloir entreprendre quelque chose. Et je pense que chacun de nous ici, quand quelqu'un, par exemple, même moi, quand on me dit, je vais te poser une question, oh, dans mon cœur, je me dis, Seigneur, aide-moi à trouver la réponse, aide-moi à parler, sachons attendre. Et pas de vouloir nous-mêmes vouloir répondre, parce que parfois on peut répondre trop vite aussi. Oui, Pierre, lui, l'a frappé parce qu'il n'a pas su prier. Il n'a pas su veiller. Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi de ne pas attendre la réponse de Jésus? Mais dans ce récit, Jésus, là encore, va intervenir. Et il va limiter les dégâts. Encore une fois, le Seigneur limite les dégâts. Quel amour. Il faut qu'il ait de la patience. Enfin, je parle pour moi, là. Un autre point qui est frappant, dans le verset 50, on peut le lire, Marc 14, verset 50. Quelqu'un veut le lire?
Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite.
Ah oui. Alors, là, tous l'abandonnent, il prend la fuite. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, Jésus n'a pas résisté. Et ils prennent la fuite parce qu'ils se... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils devaient penser, on va le voir. Vous savez, la foi des vrais chrétiens, comme parce que c'était les disciples, ils étaient... Voilà, ils avaient foi en Jésus quand même. Elle peut vaciller. Ça peut être pour nous un encouragement. C'est pas un encouragement à vaciller, mais ça peut être... On peut se dire, ouais, si eux, ils ont vacillé, on peut, nous aussi. Le psaume 41, verset 10. Qui c'est qui veut lire le psaume 41, verset 10?
Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû.
Je ne sais pas si c'était la bonne référence que vous voulez. C'est bien, tu as lu bien 41, verset 10?
Oui.
Non. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi.
Voilà.
Ah oui, tu as lu le 11, toi.
Oui, voilà. Ouais, mais après, il y a un décalage peut-être dans le truc, mais voilà, c'est ce verset que je voulais.
Le 11 et 10.
Voilà. Alors, dans ce psaume-là, bien sûr, là, David, il fait référence à son compagnon qu'il avait trahi. Hein, mais ça peut nous renvoyer vers Jésus avec Judas. Ils ont tourné le talon avec les disciples. Mais parfois, je me demande si dans des situations difficiles, dans notre témoignage, dans nos décisions, est-ce que nous ne tournons pas le dos, nous aussi, le dos à Jésus? Rappelez-vous la référence de Zacharie 13, verset 7. Ça a évoqué l'abandon des brebis. Alors là aussi, essayons de tirer une leçon là, de l'abandon et de la fuite des disciples. Ça mérite une petite réflexion quand même. Hein. Vous savez, Pierre avait fait la promesse de mourir pour son maître. Vous vous rappelez, verset 39. Hein. Et bien, ce qu'on peut dire, c'est que la peur peut prendre le dessus. Le danger l'emporte parfois sur la foi. Les sentiments, le péril immédiat chassent tout autre sentiment de notre esprit. Oui, les disciples l'abandonnent et ils prennent la fuite. Mais je pense qu'on ne doit pas trop les juger trop vite. Hein. Nous devons apprendre à être nous aussi charitables dans nos jugements envers les autres. N'ayons pas une confiance excessive à nos propres forces. Vraiment, nous avons besoin de nous appuyer, de faire totalement confiance au Seigneur. Les disciples l'ont abandonné lorsqu'ils ont vu que Jésus n'a pas résisté à son arrestation. Ils sont partis. Un peu comme ce qui nous a rappelé dimanche, c'est que peut-être que... j'avance un peu sur mon propos, mais ils se sont dit, mais waouh, Jésus, lui qui a parlé à la tempête, lui qui a marché sur les eaux, lui qui a nourri 5000 hommes, lui qui a ressuscité des morts, lui qui a guéri des malades. Il est bien dit dans la Bible que Jésus n'aurait pu faire appel à une légion d'anges pour le délivrer, ou l'avait qu'à lever la main, il aurait pu. Et peut-être que les disciples se sont dit, ils s'attendaient à ça. Pourquoi Jésus ne fait pas un miracle là? Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il se laisse prendre? Les disciples devaient penser que Jésus allait faire un miracle, qu'il allait faire quelque chose, qu'ils allaient s'en sortir et stopper ce qui était en train de se passer. Vous savez, parfois, on aime que Jésus fasse un miracle dans nos vies et stopper peut-être la situation que nous vivons. Combien de fois, peut-être qu'on dit dans nos prières, « Mais Seigneur, tu vois la situation où je suis? Fais un miracle, fais quelque chose !» On aimerait, les disciples, ils auraient voulu que Jésus, « Seigneur, fais quelque chose !» Eh bien non, il ne l'a pas fait. Eh oui, nous aussi on aimerait que Jésus agisse, qu'il fasse un miracle pour qu'il me sorte de la situation que je vis. Eh bien, il ne le fait pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il se connaît, il n'est pas limité, il voit beaucoup plus loin. Et là, dans cette situation, il n'a pas fait de miracle. Il s'est laissé prendre. Mais ce qui est quand même important, c'est que Jésus intercède quand même pour nous. Et s'il n'a pas fait de miracle au moment où il s'est fait arrêter, parce que c'est pour toi et c'est pour moi, parce qu'il a voulu aller jusqu'à la croix, parce qu'il était venu pour ça, pour expier le péché de l'humanité, pour expier ton péché, pour expier mon péché, je dois avancer. Vous voyez, Jésus intercède pour nous, il est auprès du Père. La leçon que nous devons retenir pour nous, c'est de rester fidèle à Jésus, quoi qu'il arrive, même dans les épreuves, et de ne pas faire, de s'éloigner, de ne pas suivre Jésus de loin. Je vous ai écrit sur les feuilles, en rouge. Quelqu'un a dit, si tu suis Jésus de loin, alors tu es vraiment loin de Dieu. Je répète. Si tu suis Jésus de loin, alors tu es vraiment loin de lui. Ils ont suivi les disciples Jésus de loin, on l'a lu. Hein. Nous, nous pouvons aussi peut-être suivre Jésus de loin. Mais si on suit Jésus de loin, eh bien on est vraiment loin de lui. Parce que tout à l'heure on a lu que Jésus marche devant nous, nous sommes derrière. On ne doit pas suivre Jésus de loin. Même si tu passes une épreuve, une chose difficile, hein, qui est parfois décourageante, c'est vrai. Parce qu'on peut dire, ouais, mais toi tu ne vis pas là ce que je vis moi, peut-être. Mais suis Jésus de près. Ne le suis pas de loin. Parce que quand on suit quelqu'un de loin, on le voit pas bien. On est perdu. Merci. C'est vrai. Si le Seigneur n'avait pas résisté, c'est pour nous qu'il a fait. Laissons-nous imprégner de la profondeur de son amour. Il n'a pas fait ce miracle parce que c'est par amour pour nous. Et parfois, si Dieu ne répond pas à ta prière, c'est peut-être pas le moment, mais en tout cas, il intercède pour nous, il est là, et quoi qu'il arrive, il ne nous abandonne pas. Et ça doit être un encouragement pour nous. Je me demande quel ressenti a dû avoir Jésus à ce moment où il fut abandonné par les siens. Ça doit être triste quand même, de voir même les siens qu'il abandonne. Certainement, il a dû avoir de la déception. Peut-être a-t-il été attristé à ce moment-là. N'attristons pas le Saint-Esprit. On peut l'attrister par notre comportement, par notre façon de penser, par notre façon de voir les choses, par notre façon de parler à un frère, à une sœur. On peut l'attrister parce que n'oublions pas que quand on fait quelque chose à un de tes plus petits, c'est au Seigneur qu'on le fait. Là aussi, on doit réfléchir. C'est vrai que je peux décevoir quelqu'un. Peut-être un frère ou une sœur, je peux décevoir. Je peux décevoir l'Église. L'Église peut me décevoir. Mais il existe un ami indestructible. C'est Jésus lui-même. Qui comprend nos faiblesses. Ça ne veut pas dire que nous devons rester dans nos faiblesses, hein. Mais il les comprend. Et que si nous sommes faibles, nous pouvons revenir au Seigneur. Jésus sait ce que c'est que de voir des amis et des disciples le décevoir dans l'épreuve. Lui a supporté tout cela avec patience. Et encore, par amour, hein, malgré l'abandon. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus sur la croix? Père, pardonne-leur.
Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Là aussi. Ils ne se lassent jamais de pardonner. Efforçons-nous d'en faire autant. Sachons pardonner. Jésus, en tout cas, lui, ne nous décevra jamais. Et vous connaissez ce passage de Lamentation de Jérémie, le 3, verset 22. On peut le lire peut-être. Je ne sais pas si je l'avais marqué, peut-être pas, mais on peut le prendre là. Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, verset 22. Oui, je vais le noter.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme.
Ouais. Merveilleux passage. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions, elles sont toujours là. Alors, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. N'est-ce pas un encouragement pour nous, ce soir? Alors, juste le verset 51 et 52. Alors, là aussi, Marc est le seul à rapporter ce qui s'est passé. Vous voulez le lire, le verset 51 et 52, dans Luc 14.
Dans Marc.
Marc, chapitre 14, verset 51. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Alors, quand j'ai lu ce passage, je me dis, mais qu'est-ce que ça vient, faire là-dedans? Mais bon, c'est écrit. Alors, j'ai voulu regarder, chercher d'abord qui était celui-là, qui était, parce qu'il n'y a que Marc qui mentionne cela. Hein. Alors, j'ai regardé les commentaires et certains commentaires pensent que c'est Marc lui-même, hein, qui était au lit au moment de l'arrestation de Jésus et qu'un serviteur serait venu l'avertir, parce que c'était le soir, c'était tard, hein. Et un serviteur serait venu le voir et lui dire « Waouh, on va, oh, Judas il vient avec une armée, ils vont arrêter Jésus. » Et il se serait levé vite fait pour aller vite avertir Jésus et il aurait pris simplement un drap et il serait parti pour l'avertir. Et puis, en arrivant au jardin de Gethsémané, waouh, il voit que, ça y est, les soldats ramènent Jésus et donc il le suit de loin un peu, mais il y en a un qui le voit, il veut pour l'attraper, il aurait attrapé le drap et il serait parti... serait parti tout nu. Enfin, je ne sais pas s'il y a une explication là, moi je n'ai pas d'explication, ouais. Mais bon, voilà, c'est marqué, je ne sais pas. Ce qu'on peut remarquer, c'est que peut-être que Marc a voulu suivre aussi Jésus de loin, et que quelqu'un, comme je vous ai dit, a voulu attraper, hein, et donc, ouais, il s'échappe, je l'ai dit, excusez-moi, je le répète, j'ai trompé de ligne. Alors, je me demande parfois si nous ne sommes pas comme les disciples, quand tout va bien, on suit Jésus, n'est-ce pas? Ah Seigneur, ah, que c'est bon d'être en présence, c'est bien. Et quand tout va mal, qu'il y a un risque et qu'on perd courage, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On peut tourner le dos au Seigneur. On peut s'éloigner, ça ne veut pas dire qu'on va l'abandonner. Non. Mais ça peut nous arriver, quand les choses ne vont pas comme on veut, eh bien, on est un peu comme les disciples. Hein. Enfin, c'est pas ce que moi je ressens. Vous savez, ça peut nous arriver parfois dans notre témoignage. On a peur parfois de témoigner. C'est une forme de te dire, oh oui, je préfère me taire. Parce qu'on a peur que de ce qu'on va nous dire, quand dira-t-on, hein. On peut aussi être là sans se dire, bon, je suis Jésus de loin, mais on peut s'éloigner. N'ayons pas peur de témoigner selon la Bible, pas avec nos propres forces, hein, je le dis bien. Vous savez, quand j'ai lu que j'ai regardé un peu cette étude-là, je me suis dit, mais je ne suis vraiment pas digne de l'amour du Seigneur. Parce que je suis pire que les disciples du temps de Jésus, là. Parce que dans ma vie, ouais, quand tout va bien, c'est bien, Seigneur, je te loue, mais dans les moments difficiles, parfois je me dis, ouais, oh, Seigneur, quand même, tu ne vois pas les choses. Mais nous devons apprendre à rester fidèle au Seigneur, quoi qu'il arrive. On n'aime pas Dieu selon les circonstances. Ça va bien, ouais, Seigneur, je te loue. Ça va pas, ben, Seigneur, quand même, agis. Hein, tu devrais faire quelque chose. Ouais, c'est pour ça que je me dis, je ne me sens pas vraiment digne de l'amour du Seigneur. Et, en tout cas, ce que je comprends vraiment, c'est la parabole du fils prodigue. Hein? Combien il est bon, au lieu de fuir, de faire comme le fils il a fait. C'est vrai qu'à un moment donné, il a suivi Jésus de loin, ou le père de loin. Mais après, il est revenu. Et un jour que je discutais avec quelqu'un, sur cette parabole du fils prodigue, quelqu'un m'a dit, et je ne voudrais pas le nommer, ben si je vais le nommer, c'est mon frère Gino, qui m'a dit, tu sais, parce qu'on parlait du fils prodigue, il m'a dit, mais tu sais, on devrait, au lieu d'appeler la parabole le fils prodigue, on devrait appeler le père prodigue. Parce que c'est le père qui, lui, a crusté l'horizon pour attendre que le Fils revienne. Et je me dis, aujourd'hui, eh bien, le Père, Dieu, notre Père, il est là encore en train de cruster. J'ai des mots, moi, des fois, qui meurent, la langue qui fourche un peu. Mais bon, vous avez bien compris.
Scruter.
Ouais, il scrute l'horizon pour voir si on revient. Alors, je ne sais pas dans quelle situation on est, chacun. Hein, mais reviens au Seigneur. Même si, à un moment donné, tu as suivi Jésus de loin. Hein, le Père attend que nous revenions. Alors ce soir, ouais, si c'est le cas, dis-toi bien que le Père, il est là et il attend. N'abandonnons pas notre Seigneur. Lui ne nous abandonne pas, il a tout fait, il a tout accompli. C'est un encouragement, excusez-moi, j'ai passé 2-3 minutes, c'est un encouragement pour nous ce soir. Enfin, ça a été un encouragement pour moi de me dire, ben oui, ouais, tu manques des fois. Tu t'énerves quand il ne faut pas. Hein? Mais voilà, le Père nous attend. Hein? Donc, je ne veux pas changer la parabole, c'est le fils prodigue, mais on peut appeler le Père prodigue aussi. Merci Gino, en tout cas, de ce que tu m'avais dit, ça m'avait parlé.
Le Père merveilleux.
Ouais. Voilà, mais écoutez, ouais, bon, on avait passé de temps, on a commencé 4 minutes en retard. On finit bien. Mais rappelez-vous ce qu'il a dit Stéphane, hein. Maintenant, quand on va dépasser les messages un peu de 20 minutes, ça peut être normal.
Pour notre bien.
Pour notre bien. Voilà. Ouais. Donc, voilà, notre étude se termine. Peut-être est-ce que quelqu'un veut terminer, prier et encore remercier le Seigneur vraiment de son amour parce qu'il a été jusqu'au bout. Voilà, quelqu'un veut bien terminer par la prière.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce partage de la parole. Merci Seigneur parce que nous avons besoin de nous nourrir ensemble, de nous rassasier de ta parole. Et merci pour cette étude de ce moment déterminant où tu as été capturé, Seigneur, et tu vois que tout le monde est en train de paniquer. Et il n'y a que toi qui as su ce qui se passait, comprenait et livré toi-même, Seigneur. Tu es celui qui a compris ce qu'il attendait, et malgré tout, tu étais le plus serein. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est vrai, nous sommes comme ces disciples à ne pas comprendre ce qui se passe parfois dans nos vies. Et Seigneur, toi tu es là et tu accomplis tes plans dans nos vies. Et nous voulons apprendre vraiment à te faire confiance et à toujours veiller, comme il a été rappelé, Seigneur, à comprendre combien nous avons besoin d'une intimité avec toi, Seigneur, parce que lorsque nous sommes dans l'intimité avec toi, alors tout peut se produire, même les choses que nous ne comprenons pas. Mais nous savons que tu es celui qui dirige et celui qui accomplit le plan merveilleux que tu as pour chacun de nous. Nous voulons vraiment apprendre à dépendre de toi, Seigneur, à être toujours à tes pieds, à être toujours en confiance, malgré tout ce qui peut arriver, parce que nous voyons combien tu as déjà gagné cette victoire lorsque tu étais capturé, Seigneur, tu étais en train de triompher, Seigneur, alors qu'au lieu du monde, tu étais en train de perdre tout ce que tu as accompli pour chacun de nous, et nous savons combien, nous savons tout ce que nous te devons, Seigneur, et nous comprenons maintenant ce qui s'est passé. Merci pour ce trésor merveilleux du salut que tu nous donnes. Merci parce que nous n'avons rien à ajouter à tout ce qui a été fait, mais Seigneur, apprends-nous vraiment à être tes enfants, à être dignes du trésor que tu nous as confié. Et merci d'être avec tous ceux qui n'ont pas pu être là ce soir avec nous, à pouvoir profiter de cet enseignement. Tous ceux qui sont dans les difficultés, dans les épreuves, Seigneur, nous savons que tu es avec eux. Et nous voulons vraiment te les remettre encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Merci.